Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Salut à tous, c'est la fin de l'été, j'espère que vous êtes partis en vacances, que vous êtes tous reposés, bronzés, ou peut-être que vous êtes encore en vacances, et dans ce cas-là, vous avez bien de la chance. Je suis ravi de vous présenter cette seconde saison de Vlan. Vous avez dû remarquer ce podcast, il était très marketing à l'origine, et puis au fur et à mesure, même si le sujet du marketing, c'est un sujet qui m'intéresse et c'est mon métier, mais moi, ce qui me passionne, c'est plutôt les personnes. Et donc, du coup, ce podcast, il devient, depuis l'épisode 40 avec Esther Perel sur l'évolution des relations amoureuses, plutôt une analyse de l'évolution de la société, parce qu'on vit une révolution industrielle et je trouve ça vraiment passionnant. Et l'évolution de la société, ça peut être des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de pensée, la relation au genre, ça peut être l'éthique, l'évolution de la médecine, de ce qu'on mange, etc., etc. Et pour ce premier épisode, je reçois Olympe de G. Alors Olympe de G, je l'avais déjà reçu sur l'épisode 50. Et c'est un sujet peut-être un peu léger, mais quand même qui est passionnant et qui touche tout le monde parce qu'on va parler de sexualité, on va parler de porno éthique, on va parler de nouveaux formats de porno, en particulier sur l'audio. Et entre-temps, d'ailleurs, elle a lancé un format audio porno sur Audible qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc je suis ravi de vous présenter cette conversation et j'espère qu'elle vous passionnera autant que moi, elle m'a intéressé. Mais bon, on va pas tout changer. Donc pour garder les bonnes habitudes, allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, je suis avec Olympe de G pour la seconde fois, parce qu'on a déjà parlé de sexualité féminine et un petit peu de porno, mais je voulais qu'on se revoie pour approfondir cette idée de porno et descendre plus en profondeur, si je peux me permettre, sur ce qu'on appelle l'éthique, ou en tout cas, moi, ce que j'appelle le slow. J'ai fait un épisode avec Tariq Krim sur le slow web, et dans cette même tendance du slow food, il y a ce qu'on peut dire le slow porn, finalement, qui est une sorte de porn plus éthique. Qu'est-ce que... pour toi, c'est quoi un porn qui soit un slow porn ou un porn éthique?
Pour moi, un porno plus éthique, c'est un porno qui est produit avec considération. Mmh. Donc, par rapport... Enfin, on a tous entendu parler des horreurs de la production de porno mainstream. Donc, Ovidie a fait un documentaire édifiant à ce sujet. Ce sont parfois des jeunes filles qui ont à peine 18 ans, qui vivent dans des tout petits appartements, qui font des scènes à la chaîne pendant 6 mois. Le porno éthique, c'est un porno qui a envie de montrer du sexe consenti, ça c'est un peu la base, surtout du sexe qui donne du plaisir aux performeurs. C'est un porno qui a envie de faire appel à des performeurs qui sont épanouis, qui mmh. vont être bien payés, bien traités, avant, pendant et après le tournage. Il y a aussi une partie éthique sur l'image aussi qu'on donne des femmes, des gens de couleur, de plein de... Voilà, toutes ces problématiques-là qui sont malheureusement souvent mal mises en scène dans le porno mainstream, avec des clichés racistes, avec des clichés sexistes. Essayer de les traiter avec considération, respect, subtilité, voilà.
Mais moi, il y a un truc qui me choque dans le porno, mais même dans la sexualité en général, hein, même la mienne ou Hein, c'est que la sexualité s'arrête au moment où le mec éjacule. Ce que je trouve ça assez fou quand même. C'est-à-dire que, en fait, à partir du moment où le mec éjacule, bah, c'est fini. Non, mais c'est quand même fou.
Ouais, c'est d'ailleurs très dommage, même dans la vie privée.
Bah oui. Et du coup, c'est un peu étrange. Enfin,
ouais,
pourquoi ça,
ouais, tout à fait. Moi, d'ailleurs, j'ai travaillé. En fait, j'ai un film qui est articulé autour d'une éjaculation féminine.
Ouais.
Donc un squirt qu'on a filmé en ultra slow motion à 1000 images secondes, donc c'est absolument c'est incroyable de voir ça. Je pense d'ailleurs que c'est la première fois que ça a été filmé, une éjaculation féminine en ultra ralenti et en macro. Et je voulais en fait que le film, donc c'est un film qui fait 10 minutes, je voulais que le film ne comprenne que cette éjaculation féminine. Et au dernier moment, la prod m'a dit « vous avez pas filmé quand même une éjaculation masculine ?» Je suis « si, on en a une ». Et ils m'ont imposé le fait de la remettre dans le film, parce qu'ils voulaient que ce soit présent. Mais oui, c'est dommage qu'on se focalise pas sur les manifestations du plaisir féminin, ouais. Même s'il est interne, il y a plein de choses qu'on peut voir. Enfin, le sexe se contracte, on pourrait essayer de filmer ça. Même les muscles, il y a beaucoup de femmes qui ont des chatouillis dans les pieds, qui ont les pieds qui se contractent. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut filmer dans les manifestations de l'orgasme, et pas forcément d'ailleurs dans la partie génitale elle-même. Ça peut être plein de choses.
Et du coup, parce qu'en fait, tout ce que tu décris, évidemment, enfin, moi, je pense que c'est nécessaire tant à l'éducation sexuelle qu'à un certain nombre de personnes qui ont envie de regarder ce genre de porno aussi. Mais ça a un prix. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que l'offre de porno mainstream, que ce soit, on pourrait citer les sites, mais il y en a un certain nombre, elle est principalement gratuite. Et quand on parle de slow porn ou de porno éthique, il y a aussi cette idée de savoir, quand je consomme gratuit, je participe à une machine finalement qui elle-même est pas très très éthique en général.
Tout à fait, et c'est là que c'est vraiment important de se rendre compte que si on souhaite qu'il y ait une offre de pornographie qui soit diversifiée, avec donc des regards féminins, que ce soit pas le mec stéréotypé blanc de 50 ans qui fait du porno depuis 30 ans, que ce soit pas que ces gens-là qui offrent des vidéos. Eh bien, les petits producteurs, ils ont besoin d'argent pour faire leurs films, tout simplement. Donc c'est comme quand on achète des bons produits locaux, bio, et qu'on se dit « Ah bah zut alors, ça coûte un peu plus cher que le truc de la grande surface vendu par 5 kilos ». Ça coûte ça un prix, mais parce que ça a été produit avec des valeurs auxquelles on peut adhérer, et puis parce que ça va être quelque chose d'intéressant à consommer. On va regarder un film pornographique, mais ça va pas juste être deux personnes jetées sur un canapé pendant 30 minutes et à qui on dit va plus fort. Ouais. Ça va être un regard artistique peut-être, ou en tout cas une sensibilité particulière d'un réalisateur.
C'est un petit peu ce qu'il essayait de faire, Gaspard Noé, c'est ça?
Pour moi, Gaspard Noé, il a fait un truc qui est salutaire, et qui est que, en fait, dans le cinéma, aujourd'hui, il y a quand même très peu de scènes de cul, et elles sont extrêmement stéréotypées et super chiantes.
Ouais.
Enfin, ça manque vraiment. Tu peux avoir un film superbe, et souvent, quand on arrive à la scène de cul, ça manque d'inventivité, etc. Et Gaspard Noé, pour moi, il s'est dit, mais quand même, le sexe, c'est important. Il y a beaucoup d'histoires qu'on met en scène au cinéma qui tournent quand même autour de la rencontre entre des gens, entre des alchimies sexuelles, entre des histoires sur des histoires de désir et tout. Et en fait, une fois qu'on est au pieu, la caméra se tourne et montre le feu dans la cheminée, ou tu vois, enfin bon, merde. Donc il s'est dit, on va filmer le sexe, on va le filmer bien. Et c'est super. Pour autant, je pense que c'est très différent de la démarche des pornographes indépendants, dans le sens où c'est pas le même format de film, c'est une fiction. Les pornographes indépendants, ils cherchent pas à faire de la fiction, ils cherchent à faire de la bonne pornographie, c'est-à-dire à filmer le sexe de façon belle, inventive. Ils ont ça, c'est d'ailleurs aussi un aspect qui est quand même vachement important dans le porno éthique, selon moi. Au-delà du fait de comment on traite tous les gens présents sur le plateau de tournage, c'est cet engagement à montrer toute une variété de corps Et ça c'est super important, enfin, de montrer des femmes qui font 60 kilos ou qui en font 110 ou qui en font 40, qui font 1m10 ou 1m90, de toutes couleurs de peau, avec des tatouages, sans tatouages. Bon, voilà, donc toute une diversité de corps féminin et de corps masculin. D'intégrer aussi des personnes en situation de handicap, parce que sans les fétichiser, juste comme des personnes qui ont une sexualité active, et également de montrer tout type de sexualité, c'est-à-dire on parlait la dernière fois du fait que la femme soit trop souvent montrée comme soumise dans le porno mainstream, mais au-delà de montrer des femmes dans des postures plus actives, plus puissantes, de montrer des sexualités qui peuvent être stigmatisées, comme le BDSM qui fait peur à beaucoup de gens, peut-être les rapports sadomasochistes, bondage, etc. Donc de montrer tout ça, ça a été démocratisé par des films comme Fifty Shades of Grey, de montrer des pratiques qui vont jouer un petit peu avec de la douleur, avec de la contrainte. De montrer tout ce qui peut plaire à des gens qui n'osent pas forcément en parler, et d'essayer de dire, mais en fait c'est que ça, hein, vous savez, c'est la sexualité, c'est un jeu, c'est du plaisir, c'est un plaisir différent de la levrette ou du missionnaire, mais c'est aussi un jeu de plaisir et c'est chouette. Donc voilà, il y a vraiment cet engagement du porno éthique à montrer quelque chose de plus vaste, de plus divers.
T'as certainement pas la réponse, mais la question c'est, parce que les gens consomment du bio, pas parce que, enfin, il y en a plein qui consomment du bio par la manière dont les produits sont faits, mais ils le consomment aussi. Enfin, il y en a un certain nombre qui le consomment parce que c'est bon pour leur santé. En
fait.
C'est très individualiste comme manière de consommer.
Mais je pense que c'est la même chose dans le porno éthique féministe ou alternatif, ou appelle-le comme tu veux. Hein. Par exemple, dans un de mes films, donc il y a une actrice qui s'appelle Heidi Switch, et qui est une femme très imposante, qui a des formes sublimes. C'est une femme grosse, une très grosse femme, très belle aussi. Et lorsqu'elle a tourné dans mon film, elle a reçu